Un deuxième roman paraissait, puis l'année suivante, un troisième. Il parlait d'un inspecteur qui ressemblait beaucoup à ceux que je croisais dans mon travail. Le deuxième se vendit mieux que le premier, et le troisième mieux encore que le deuxième. Lorsque j'arrivais à mon quatrième sur cet inspecteur, je me retrouvais devant une décision à prendre. Mon travail d'enquête sur les affaires criminelles donnait à mes romans toute l'authenticité et la noblesse secrète du métier d'inspecteur. Mais depuis l'âge de 19 ans, mon but avait toujours été de devenir romancier. Partager mon temps entre rédiger des articles de journaux et écrire des romans me laissait l'impression de ne pouvoir donner ni aux uns ni aux autres le meilleur de moi-même. Je savais qu'il fallait y aller. L'heure était venue de rendre ma carte de presse et de devenir l'écrivain que je voulais être. Ce fut tout un processus. Appelez ça l'angoisse de la séparation. Je passais d'une grande salle avec 100 journalistes tapant sur leur clavier, buvant du mauvais café et racontant des blagues, à une pièce où je travaillais seul et où le silence pouvait être assourdissant. Mais d'une certaine manière, je continuais mon travail de jour. Je parlais d'un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, mon raisonnement étant que d'écrire le boulot que je venais juste de quitter m'aiderait à faire la transition. Je puisais dans ce que je savais de ce travail, dans ce qu'il m'avait apporté, dans ce qui, à certains moments, m'avait donné l'impression d'être le prince de la ville. Je décrivis aussi le côté sombre de tout cela, l'intrusion dans la vie des gens au pire moment de leur existence. Et je commençais le roman avec la phrase qui, je le pensais souvent, résumait le mieux ce qu'était devenu ma vie lorsque, journaliste, j'écrivais sur les horreurs qui se produisent dans ce monde. La mort, c'est mon truc. Une fois le livre terminé, je ne sus comment l'intituler. Ce fut le seul et unique ouvrage que je confiais sans titre à mon éditeur. Il y avait dans cette histoire un méchant que le FBI appelait « le poète » parce qu'il empruntait des phrases à un grand écrivain et poète. Lorsque mon éditeur me confia que le titre suggéré par le comité littéraire était « le poète », je lui dis que je prenais. Mais pas pour les raisons qu'ils invoquaient. Pour moi, ce titre se réfère à Jack McAvoy, le journaliste qui me sert d'alter ego dans le roman. Le poète qui doit rendre sa copie à l'heure. Le genre même de reporter que j'avais toujours voulu être. Michael Connelly. Ce livre est dédié à Philippe Spitzer et Joël Gottler. Ce sont de grands agents et conseillers littéraires, mais surtout de grands amis. Chapitre 1. La mort, c'est mon truc. C'est grâce à elle que je gagne ma vie, que je bâtis ma réputation professionnelle. Je la traite avec la passion et la précision d'un entrepreneur de pompes funèbres, grave et compatissant quand je suis en présence des personnes en deuil, artisan habile quand je suis seul avec elles. J'ai toujours pensé que pour s'occuper de la mort, le secret était de la tenir à distance. C'est la règle. Ne jamais la laisser vous souffler dans la figure. Hélas, cette règle, la même, ne m'a pas protégé. Quand les deux inspecteurs sont venus me chercher et m'ont parlé de Sean, une sorte de paralysie glacée m'a aussitôt envahi. C'était comme si je me retrouvais de l'autre côté de la vitre d'un aquarium. J'avais l'impression d'évoluer sous l'eau, dans un sens puis dans l'autre, encore et encore, et de contempler le monde extérieur à travers une paroi de verre. Assis sur la banquette à l'arrière de leur voiture, j'apercevais mes yeux dans le rétroviseur. Ils lançaient un éclair chaque fois que nous passions sous un lampadaire. Je reconnus ce regard fixe et lointain, celui des toutes nouvelles veuves que j'avais interrogées pendant des années. Je ne connaissais qu'un des deux inspecteurs, Harold Wexler. Je l'avais rencontré quelques mois plus tôt, un jour où j'étais allé au Pinsoff pour boire un verre avec Sean. Tous les deux faisaient équipe au sein de la section CAP, Crime Against Persons, de la police de Denver. Je me souviens que Sean l'appelait Wex. Les flics s'appellent toujours par des surnoms. Wexler, c'est Wex. Sean, c'est Mac. C'est comme une sorte de lien tribal. Ces surnoms ne sont pas toujours très flatteurs, mais les flics s'en foutent. J'en connais un, à Colorado Springs, qui s'appelle Scotto. Et la plupart de ses collègues le surnomment Scrotto. Certains vont même jusqu'à l'appeler Scrotum, mais j'imagine qu'il faut être très ami avec lui pour se le permettre. Wexler était bâti comme un petit taureau,